Dorothy Day, Révolution sociale et Révolution du cœur, une militante chrétienne au XXe siècle. Dorothy Day, 1897-1980, est une journaliste et militante catholique américaine. Lors de la rentrée de l'antenne de théologie des pays de la Dour, l'ATPA, Thérèse Dussartel, qui enseigne la philosophie et qui publie tous les 15 jours une chronique dans l'hebdomadaire La Vie, en 2017, elle a cofondé le Dorothy, un café-atelier associatif animé par des chrétiens et ouvert à tous dans un esprit de fraternité. Situé à Paris, rue de Ménilmontant, le Dorothy est le cadre de nombreuses activités intellectuelles, artistiques, manuelles et sociales. Voici donc la conférence de Thérèse Dussartel, cofondatrice du Dorothy à Paris, qui nous parle donc de Dorothy Day, cette journaliste et militante catholique américaine du XXe siècle. Conférence enregistrée à la Maison diocésaine de Bayonne, le 27 septembre 2024, Thérèse Dussartel.
Bonsoir à tous et à toutes. Donc merci beaucoup pour l'invitation, je suis très contente d'être là. Je ne connais pas très bien la région, mais c'est toujours très intéressant de sortir un peu de son église locale pour rencontrer d'autres frères et sœurs et de comprendre un peu quels sont vos enjeux, vous, sur votre territoire. Donc effectivement, ce soir, c'est une conférence assez générale, une conférence un peu générale sur la vie de Dorothy Day. Donc avec plusieurs amis, il y a 7 ans, on a créé un lieu associatif à Paris. Donc un café associatif a pour but d'être un lieu gratuit au service d'un quartier, pour que justement, dans cette ville parisienne qui est si chère, où tout coûte très cher, où les loisirs sont très chers, il y a beaucoup de gentrification et très peu de lieux où les gens se rencontrent. On va souvent boire des coups avec les gens comme nous qui peuvent se payer une bière à 8 euros ou d'autres vont au Resto du Cœur. Mais il y a rarement des lieux où on peut vraiment faire communauté. Et donc, on voulait créer ce lieu pour être ensemble. Donc, il y a un accueil social tous les après-midi de 14h à 17h ou 14h à 20h où on offre gratuitement thé, café, etc. Donc, c'est un peu comme un accueil social, par exemple, du Secours catholique, si vous connaissez. Mais on a essayé de faire du café un lieu un peu bobo. Donc ça ne ressemble pas à un accueil social, ça ressemble à un café de bobo parisien. Parce que le but, c'était aussi d'honorer tous ceux qui venaient et que ce ne soit pas un lieu social où on vient parce qu'on a des problèmes, mais que ce soit un lieu fraternel, chaleureux, beau, pour tout le monde. Et donc dans ce café, on cherche à vivre, partager un peu le quotidien. Des gens du quartier, donc il y a des activités culturelles, pareil, gratuites, des expos, des conférences, il y a des repas partagés où on prend des repas ensemble, on essaye aussi de faire des sorties hors de Paris pour permettre à ceux qui n'ont pas de vacances, etc., de prendre l'air, il y a un groupe de prière pour prier pour cette petite communauté. Donc voilà, ça c'est un peu le... Et puis il y a des ateliers manuels, parce qu'on est des générations, sans doute que vous considérez vos petits-enfants comme des analphabètes de la main, donc on ne sait plus faire grand-chose de nos 10 doigts. Donc il y a aussi un atelier pour que tout le monde puisse faire un peu de plomberie, d'électricité, etc. L'idée c'est de redonner une autonomie aux jeunes, pas que aux jeunes, à tout le monde, pour éviter de sortir un peu une société de consommation où il faudrait tout acheter et jeter, pour apprendre à réparer, à faire soi-même, etc. Donc ce projet du café, ça c'est concrètement le café, il est inspiré par une femme qui s'appelle Dorothy Day. Donc dans ce livre-là, elle a 25 ans. Et dans ce livre-là, elle a plutôt 75 ans. C'est une femme qui a été militante toute sa vie, de ses 16 à ses 80 ans, pour la justice sociale. Et donc, j'aimerais vous raconter un peu sa vie et vous dire un peu pourquoi cette femme nous paraît prophétique, nous semble être une femme exceptionnelle qui peut inspirer, redonner vie un peu à notre Église en France aujourd'hui. Je dirais qu'une des raisons principales qui nous a donné envie de choisir cette femme comme une figure inspiratrice, c'est le fait qu'aux États-Unis, les États-Unis ne sont pas un pays sécularisé comme la France. Et donc, on peut parler de la religion de manière beaucoup plus simple. Et Dorothy Day est une femme qui a grandi dans un milieu plutôt anarchiste, communiste. Alors, socialiste aux États-Unis, parce que c'est qu'on ne pouvait pas utiliser le terme communiste, mais socialiste, anarchiste aux États-Unis, qui s'est convertie et qui a continué son engagement auprès des plus pauvres en fondant une association qui s'appelait les travailleurs catholiques, The Catholic Workers. Et elle a dit, j'ai toujours agi, donc elle a toute sa vie, elle était une militante politique, et elle a dit, j'ai toujours agi au nom de ma foi, et je n'ai jamais eu peur de dire que c'était au nom de ma foi chrétienne, au nom de ma foi en Jésus, que je me suis battue pour le droit des femmes, pour le droit de vote des femmes, pour les droits civiques des personnes noires, pour le droit au logement, pour des salaires justes, contre la guerre, contre la course à l'armement, pour le désarmement, etc. etc. Je vous dis un peu plein de thèmes qu'on va aborder, mais qui sont tous les thèmes pour lesquels elle s'est battue, pour les paysans sans terre, pour une propriété privée juste, etc. Et on trouvait ça très intéressant parce que en France, aujourd'hui, on a une vision très distincte. Il y a la politique d'un côté, qui est une sphère neutre, voilà, et puis il y a la vie, la foi, qui est une sphère privée. Et donc souvent, notre foi, quand on va parler de sujets personnels, de famille, d'éducation, etc., mais on a un peu mis la foi dans un domaine très privé. Et ce qui nous intéressait, c'est qu'elle, elle vit sa foi dans sa sphère privée, mais aussi, c'est un moteur pour son engagement dans le monde. Et donc, ça nous paraît assez prophétique pour nous aujourd'hui, parce que notre constat, quand je dis « nous », c'est le Dorothy, les réflexions qu'on partage ensemble au Dorothy, c'est que nous sommes une génération qui a très soif de Dieu. Le désir religieux revient très fortement. Et qui a aussi une grande soif de justice sociale, avec beaucoup de jeunes qui ne veulent plus vivre dans un monde où les inégalités explosent, où la crise écologique est très présente. Et donc ça nous est paru comme une figure qui pouvait nous inspirer par sa vie, parce qu'elle alliait ces deux aspects. Alors, peut-être qu'avant de commencer, j'aimerais nous prévenir ensemble de deux écueils. Souvent, quand on parle d'une personne qui est décédée comme étant une personne exceptionnelle, on va raconter son histoire et on se dit « Ah, c'est exceptionnel, en 33, elle a fait les marches pour la faim, 100 000 personnes dans les rues à New York pour demander un salaire juste, etc. Quelle femme engagée !» Et comme c'est le passé, on a tendance à mettre l'événement un peu à distance et on a du mal à se dire « Aujourd'hui, qu'est-ce que ça pourrait être qu'un tel engagement ?» Et donc, parfois, il faut faire attention quand on parle des saints à ne pas trop les historiciser, entre guillemets, et se dire « C'était vraiment des personnes exceptionnelles dans le temps, mais ça n'a rien à voir avec mon quotidien. » Donc c'est un premier écueil, je pense, de se dire quel est l'engagement de Dorothy Day à son époque et en quoi comment ça résonnerait pour aujourd'hui, dans notre époque. Et le deuxième écueil, Dorothy Day disait tout le temps « Don't call me a saint », « Ne m'appelez pas une sainte ». À la fin de sa vie, notamment, elle était très connue aux États-Unis. Et elle disait, en fait, « Si vous dites « Je suis une sainte », en fait, vous me mettez sur un piédestal, donc je ne suis plus comme les autres. » Et donc, je suis une personne exceptionnelle qui fait des choses exceptionnelles. Et donc, ça vous dédouane, vous, de faire la même chose. Je ne suis pas du tout une sainte. J'ai un sale caractère. Les gens m'énervent. Mais je vis juste l'évangile. Donc voilà, c'est un peu les deux écueils peut-être à avoir en tête. C'est, en fait, ce n'est pas une personne exceptionnelle. C'est, en tout cas, c'était une femme journaliste un début de vie très commun. Et ce n'était pas une statue de cire dans une église où on allait déposer des cierges. C'était une femme tout à fait incarnée. Et donc, on peut entendre et découvrir sa vie en se disant que ça peut être un appel pour chacun de nous. Alors, Dorothy Day, elle a été nommée par le pape François quand il est allé au Congrès américain parler du coup aux parlementaires en 2015 comme étant une des quatre personnes les plus importantes dans l'histoire des États-Unis au XXe siècle. Donc il a parlé de Martin Luther King, de Thomas Merton. Il a parlé aussi du premier président américain, mais ce n'était pas le 26 septembre exactement. Et il a dit Dorothy Day. Donc Dorothy Day, c'est vraiment une figure très importante du catholicisme social aux États-Unis. Avant, je disais souvent « comme l'abbé Pierre chez nous », mais bon, vu ce qu'on découvre sur l'abbé Pierre aujourd'hui, on ne dira plus ça. Mais parce que, heureusement, elle a été préservée de commettre des crimes. Mais c'est vraiment une personne populaire qui est connue aux États-Unis par le commun des mortels. C'est un peu l'introduction, donc maintenant je vais vous raconter sa vie. Donc Dorothy Day, elle est née dans une famille, son père était journaliste, pigiste, donc elle avait une famille qui était épiscopalienne, donc protestante non pratiquante, une famille assez simple. Elle a été marquée quand elle avait 7 ans, elle a vu un immense tremblement de terre à San Francisco. Et ça a été un événement marquant de son enfance. Elle en parle comme un premier événement marquant. Le tiers de la ville a été détruit par ce tremblement de terre. Et elle s'est rendue compte que tout le monde s'était mis à se rendre service mutuellement. Sa mère elle-même a donné la soupe aux gens qui n'avaient plus rien. On accueillait les voisins chez soi, etc. Et elle en parle comme d'un événement où elle s'est dit « C'est fou, comment se fait-il qu'en temps de crise, les humains soient si généreux ?» On est capable d'accueillir chez soi l'autre, de faire dormir des gens dans son salon, de donner ce qu'on a, de partager notre nourriture. Mais quand tout va bien, entre guillemets, quand il n'y a pas de crise, tout le monde se recroqueville un peu sur sa vie personnelle. Et là, on a beaucoup moins de générosité. Et donc cet événement a été marquant pour elle parce qu'elle s'est dit, en fait, l'homme est capable. Et monsieur tout le monde, entre guillemets, pas des gens exceptionnels, mais on peut tous assez facilement être généreux. Ça apparaît, ça se voit dans les temps de crise. Donc ça, c'est quelque chose qui l'a beaucoup marquée. C'est une grande lectrice. Elle va beaucoup lire dans sa jeunesse. Et elle dit qu'un roman qui l'a beaucoup marquée, c'est un roman qui s'appelle « La jungle »,« The Jungle », de Sinclair, Upton Sinclair, et qui parle de la violence et de la misère des ouvriers dans les abattoirs à New York. Ça parle vraiment, c'est un roman qui cherche à décrire la dureté du monde ouvrier. Et elle dit... Leurs intérêts devaient devenir les miens. J'avais reçu un appel, une vocation, une direction à donner à ma vie. Donc très jeune, elle découvre un peu ce que peut être la difficulté de la vie ouvrière au début du XXe siècle aux États-Unis. Et elle se sent appelée à partager un peu la souffrance de ce monde ouvrier. Elle va rentrer à l'université à 17 ans. Elle y reste un an parce qu'elle trouve ça purement théorique et... purement bourgeois, et elle dit « je vais rien apprendre à l'université ». On apprend les choses dans le vrai monde, et donc elle quitte l'université au bout d'un an, et elle devient journaliste pigiste comme son père, et elle décide d'aller sur le terrain pour parler de la, entre guillemets, rencontrer le vrai monde, les vrais gens, les vraies difficultés. Elle va vivre quelques années, donc jusqu'en 1926, où elle a une sorte de vie de militante journaliste. Elle décide de vivre dans des quartiers plus pauvres de New York. Elle essaye de partager un peu. Elle se rend compte qu'il y a beaucoup d'insalubrité, que les hébergements sont souvent précaires, qu'il y a des personnes qui sont expulsées parce qu'elles ne payent pas leur loyer. Elle vit un peu la pauvreté. Elle découvre un peu la pauvreté, le milieu ouvrier new-yorkais de cette époque. Et elle est engagée dans deux journaux notamment, qui sont des journaux socialistes. Et donc elle est envoyée pour... raconter la manif ouvrier pour demander une augmentation de salaire. À un moment, la première fois qu'elle va en prison, c'est pour le combat des suffragettes qui demandaient le droit de vote. Elle fait un peu différents. Elle est sur le terrain, je dirais. Et notamment, elle parle beaucoup de du droit des ouvriers à être syndiqués. Elle suit pas mal d'émeutes et de grèves d'ouvriers qui demandent l'autorisation de se syndiquer. À cette époque, elle est vraiment prise dans la pensée marxiste. Elle se dit « cet ordre du monde est injuste. Il y a des gens qui s'enrichissent sur la misère d'une grande partie de la population. » Donc c'est vraiment l'exode rural qui amène beaucoup de familles agricoles ou rurales en ville et qui souffrent d'une précarité, d'un salaire injuste, etc. Et elle fréquente du coup les milieux anarchistes ou communistes qui veulent ou bien faire de l'action directe ou bien militer, qui attendent la révolution avec foi. Et donc par exemple en 17, donc ça c'est un peu au début de cette période-là, mais quand il y a la révolution russe, ils fêtent ça comme un événement. C'est vraiment potentiellement l'avènement d'un monde meilleur, d'un monde plus juste qui pourrait advenir. À ce moment-là, on peut dire que la question spirituelle ne la taraude pas. Elle a rencontré des chrétiens qu'elle a plutôt admirés, des femmes chrétiennes qu'elle a plutôt admirées, mais c'est pas une question pour elle. Sa foi, elle est dans la révolution. Et elle va, mais une fois en prison, vous savez qu'aux États-Unis, le seul livre que vous avez le droit de lire en prison, c'est la Bible. Elle va lire les psaumes, et là, voilà, elle sent en elle que le cri du psalmiste peut rejoindre le sien. Le cri. Voilà, du psalmiste vers un Dieu qui demande la justice peut rejoindre un peu son cri. Mais on peut dire que c'est une première expérience assez fugace d'une forme de transcendance. mais sa foi est plutôt, ou son désir est plutôt celui de s'engager concrètement sur le terrain pour demander des droits sociaux, plutôt que dans une quête un peu religieuse ou spirituelle. Pendant ce temps-là, elle va vivre une vie affective et intime assez triste. Donc elle va avoir des relations amoureuses, et il y a notamment une relation amoureuse qui va un peu la détruire. Elle va vivre avec un homme, donc elle va tomber enceinte, et l'homme va lui demander d'avorter, en lui disant « si tu n'avortes pas, je te quitte », etc. Donc elle finit par avorter, elle rentre chez elle, et le type en question est parti. Et là, elle va vraiment vivre un drame intérieur, donc le drame de l'abandon, de la solitude. Et elle va connaître le malheur humain. Et donc elle a 25, 27 ans. Mais voilà, elle dit qu'elle fait cette... Dans ce temps de lutte, il y a aussi des très belles amitiés, mais elle dit « je fais aussi l'expérience d'une grande solitude ». Ça va être le titre de sa biographie, « La longue solitude » de Dorothy Day. Voilà, elle fait l'expérience vraiment d'un malheur humain conséquent. Elle va même tenter un moment, un peu fatiguée, d'épouser un bourgeois qui lui propose de faire le tour de l'Europe, en se disant « ça me fatigue un peu quand même toutes ces luttes ». Comment trouver un peu l'apaisement du cœur? Mais bon, ça va pas durer longtemps. Elle va, au bout de 6 mois, 1 an, elle lui dit « merci beaucoup pour ce beau voyage, mais c'est quand même pas mon appel ». Et donc, voilà, elle redevient journaliste. Mais il y a une forme d'insatisfaction intérieure qu'elle traverse. Elle va rencontrer une phase qui est plutôt une phase de bonheur, qu'elle dira naturel, qu'on peut mettre en parallèle avec le bonheur surnaturel. Lorsqu'elle va rencontrer un homme qui s'appelle Foster, qui est un anarchiste communiste, athée, et après toutes ces années de lutte, de terrain, etc., elle fait l'expérience un peu avec lui d'une vie de couple apaisée. Elle va avoir un enfant, elle est très étonnée parce qu'elle pensait être devenue stérile suite à l'avortement clandestin qu'elle avait subi, qui va s'appeler Tamar Teresa. Et pendant quelques années, elle vit avec cet homme une vie beaucoup plus apaisée, où elle fait expérience un peu d'une vie de famille, de quelque chose de plus calme. Elle est toujours journaliste, mais elle est peut-être un peu moins écorchée vive. Mais à la naissance de cet enfant, renaît en elle son désir de Dieu. Le fait d'avoir donné la vie suscite en elle le désir ou des questions. Qu'est-ce que donner la vie? Pourquoi donner la vie? Et elle va rencontrer une religieuse un peu par hasard dans une paroisse qui va commencer à la catéchiser. À ce moment-là, il va commencer à avoir un conflit avec son compagnon, parce que lui est athée, refuse que leur enfant soit baptisé. Et donc, elle va vivre un déchirement intérieur entre cette... Foster, elle dira, c'est l'amour de sa vie, c'est vraiment l'homme qu'elle aurait aimé épouser. Et ce qu'elle commence à sentir dans son cœur, c'est-à-dire un appel à devenir chrétienne. Elle lit de plus en plus la Bible. Elle est attirée par le chapelet, notamment. Cette sœur lui apprend à prier le chapelet. Et elle fait cette expérience que... Voilà, il y a une sorte de fossé qui est en train de se creuser entre son aspiration spirituelle et le refus de son compagnon de se convertir ou au moins de baptiser sa fille. Du coup, elle va baptiser Tamar, puis elle-même va demander le baptême et elle va du coup quitter Foster. Mais c'est assez beau, elle en parle, elle dit « j'ai toujours espéré qu'il change d'avis et qu'il revienne ». Pour elle, c'était vraiment sûr que ça allait être son mari. Et donc, elle a toujours laissé un peu de côté... Elle a toujours espéré qu'ils comprennent et qu'ils finissent par revenir, chose qu'il n'a jamais fait. Il a tenu ferme dans son athéisme. Et donc, ça va être le début pour Dorothy Day d'une période très particulière où elle commence à vivre dans sa chair la radicalité de l'appel de l'Évangile. Où finalement, elle commence à vouloir essayer de tenir ensemble à la fois son engagement de justice sociale et à la fois sa vie chrétienne. Elle va vivre des années... Ça reste des années quand même compliquées. Et elle commence à découvrir un peu la foi chrétienne et elle se demande où sont les curés. Elle dit, mais dans toutes les manifs que je fais, je vois aucun curé, il n'y a pas de soutane. Où sont les catholiques? Il n'y a que des communistes pour se battre pour le droit des travailleurs qui n'ont aucun droit. Et elle se dit, mais comment se fait-il que ces mondes ne se rencontrent pas? Elle est marquée, frappée par la pauvreté évangélique, par l'appel du Christ à la pauvreté. Et elle est de plus en plus scandalisée de voir qu'il n'y a pas de chrétiens dans les luttes auxquelles elle participe. Et donc un jour, le 8 décembre, elle raconte ça quand même un peu une expérience très forte. elle prie, elle demande à la Vierge, elle dit « Montre-moi un chemin pour réconcilier en moi ou réconcilier dans ma vie mon désir de vivre avec les plus pauvres et de les aider et mon désir de te suivre. » Et à cette époque, elle vivait en coloc avec sa sœur et le mari de sa sœur, avec sa fille. Elle était toujours journaliste, elle continuait à aller sur le terrain, rencontrer des grévistes ou des ouvriers, etc. Et et en rentrant chez elle, donc avec sa sœur, ils avaient commencé un peu à accueillir aussi. Elle faisait déjà ça dans sa jeunesse, voilà, des SDF à la maison, partager un peu ce qu'ils avaient, etc. Ils étaient déjà dans un quartier populaire en essayant de vivre un peu une solidarité du quotidien, de voisinage. Et elle rentre et là, elle voit un vieux monsieur qui a l'air d'un SDF et elle se dit « Oh là là, un de plus, c'est pas évident ». On est à cette époque-là, donc dans les années 30, donc les États-Unis viennent de vivre la Grande Dépression. On a ce qu'on appelle le Hunger's March, c'est-à-dire la marche de la faim. Vous avez plus de 100 000 personnes qui font des manifestations à New York parce qu'ils n'ont plus, et à Washington, parce qu'ils ont perdu leur travail. C'est une époque où il n'y a pas ni de chômage, ni d'assurance maladie, ni quoi que ce soit. Et les gens n'ont rien à manger et donc manifestent pour demander de l'aide du gouvernement. Donc elle vit cette période-là toute seule. Et donc elle rentre chez elle, elle voit cet homme, elle se dit un de plus qui va me demander encore quelque chose à manger. Et en fait, cet homme s'avère être Pierre Morin, un Français, une sorte de philosophe vagabond, un homme qui avait été un peu frère des écoles chrétiennes quelques années, puis qui avait arrêté, et qui va la voir et lui dit « On m'a parlé de vous, vous êtes journaliste, on a les mêmes idées, on va ensemble monter un mouvement. » Elle se dit « Oula, un fou de plus, qu'est-ce qui va se passer ?» En fait, ils discutent, ils se rencontrent, et en fait, donc Pierre Morin a en gros 20 ans de plus qu'elle, et c'était un homme qui était très marqué par la pensée sociale de l'Église, par Rerum Novarum, donc cette première encyclique écrite par Léon XIII en 1891 sur justement la condition ouvrière et l'urgence de sortir d'une vision de la charité individuelle pour entrer dans une vision de la justice. Rerum Novarum dit très justement, on ne peut pas donner par charité ce qui revient de droit, ce qui revient en justice. Et en fait, ils vont se rencontrer, ils vont discuter. Et Pierre Morin va en fait lui faire découvrir la pensée sociale de l'Église. Parce qu'elle était devenue chrétienne, mais en fait, elle ne connaissait pas particulièrement à la fois les textes des papes sur le sujet, ou même des grands chrétiens engagés, comme Léon Armel, comme le fondateur des Saint-Vincent de Paul, Frédéric Ozanam, etc. Elle ne connaissait pas d'autres exemples de chrétiens engagés pour la question des plus pauvres. Et donc, grâce à lui, elle va découvrir un peu cet univers. Et donc, il lui dit, donc lui, il était très... je ne sais pas si visionnaire, c'est le terme, sans doute oui. Il lui dit, voilà, on va fonder ensemble une association parce qu'il faut que les ouvriers découvrent que l'Église a quelque chose à leur dire. Donc, il était très conscient, Pierre Morin, que l'Église était trop bourgeoise, avait complètement oublié, avait lâché, en fait, le souci des plus pauvres, et que les ouvriers, face à leurs problèmes concrets, se sentaient beaucoup plus rejoints par les communistes, qui leur proposaient des organisations, un enjeu pour se battre pour leurs droits, etc., que les prêtres, ou que les religieux, ou l'Église catholique de manière générale. Et donc lui se dit, il faut absolument aller dire à ces catholiques, ou à ces ouvriers, que l'Église catholique a une bonne nouvelle pour eux. Leur faire connaître la pensée sociale de l'Église. Du coup, ils vont ensemble donc, créer cette association des catholiques workers, qui repose sur trois piliers. La première pilier, c'est un journal qui s'appelle Les Catholic Workers, qui coûtait un centime, qu'ils allaient distribuer. Donc au début, ils l'écrivaient dans la cuisine, ils l'imprimaient dans la cuisine, ils le distribuaient eux-mêmes, ça coûtait un centime, donc pour vous dire, ça ne coûtait rien. Voilà. Le but, c'était de le distribuer à la sortie des usines, à la sortie du métro, etc. Et c'était un journal dans lequel ils parlaient justement de la pensée sociale de l'Église, de la bonne nouvelle du Christ ou de l'Évangile pour les plus pauvres. Un deuxième point, c'était les maisons d'hospitalité. Pierre Morin était très inspiré par l'hospitalité monastique de Saint-Benoît, qui disait qu'on doit accueillir toute personne comme le Christ, toute personne est alter Christus, le visage du Christ pour nous, et donc l'urgence d'accueillir sans aucune discrimination toute personne qui en avait besoin. Donc il parlait, je sais pas si ça marche, il parlait de ce projet d'ouvrir des maisons d'hospitalité. Et le troisième point, c'était la révolution verte, qui s'opposait à la révolution rouge et communiste. La révolution verte, c'était la révolution agricole et écologique. Donc Peter Morin avait conscience que le prolétariat, c'était beaucoup de populations rurales qui avaient été expropriées par l'agro-industrie, qui commençait à industrialiser l'agriculture et à exproprier les petits paysans de l'agriculture vivrière. Et donc, il fallait permettre aux prolétaires, aux gens des villes, de revenir à la campagne pour retrouver une autonomie. Donc, avoir une petite propriété privée, produire par soi-même, etc. etc. Donc, pas du tout dans l'optique productiviste des communistes qui prévoyaient une grande révolution prolétarienne grâce à une industrialisation accélérée, mais plutôt une révolution verte, c'est-à-dire à la campagne. Et donc, ils ont commencé à sortir leur journal, et le grand... les catholiques coréens disaient « Notre programme politique, c'est les béatitudes et les œuvres de miséricorde. » Donc, les béatitudes, vous connaissez, c'est « Heureux les pauvres », heureux les artisans de paix, les affamés, les assoiffés de justice. Donc, c'est notre programme politique. Nous, on veut annoncer aux ouvriers ce programme politique que sont les béatitudes et les œuvres de miséricorde, qui sont en fait une tradition médiévale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des œuvres de miséricorde spirituelles et les œuvres de miséricorde matérielles. C'est une tradition médiévale, c'est quelque chose qui a été, mis sur le papier au Moyen-Âge. Et je vous ai mis un petit extrait, c'est le texte 3. Donc, l'enjeu, c'était notamment de parler des œuvres de miséricorde comme étant la première étape, entre guillemets, de la révolution. Les œuvres spirituelles de miséricorde sont d'admonester le pécheur, d'instruire l'ignorant, de conseiller le sceptique, de réconforter l'affligé, de supporter patiemment les torts, de pardonner toutes les blessures et de prier pour les vivants et les morts. Les œuvres corporelles de miséricorde consistent à nourrir les affamés, à donner à boire aux assoiffés, à vêtir ceux qui sont nus, à racheter les captifs, à donner un porc à ceux qui n'en ont pas, je pense qu'il y a une faute de frappe, à visiter les malades et à ensevelir les morts. Lorsque Peter Morin parlait de la nécessité de pratiquer les œuvres de miséricorde, il pensait à toutes. Il a imaginé des maisons d'accueil dans les paroisses pauvres de toutes les villes du pays, où ces préceptes de notre Seigneur pourraient être mis en œuvre. Les œuvres de miséricorde sont un merveilleux stimulant pour notre croissance dans la foi et dans l'amour. Notre foi est mise à rude épreuve et grandit grâce à cette pression. Donc, pour Dorothy Day, il y a vraiment cette idée que les communistes parlent de la révolution qui va venir. Les chrétiens sont porteurs d'une révolution qui est déjà là. L'Évangile est en lui-même révolutionnaire. Si révolution, ça veut dire conversion, ça veut dire retournement, en fait, pratiquer les béatitudes, c'est déjà révolutionnaire. Et donc, elle a toujours eu un peu cette interrogation, pourquoi les chrétiens, qui ont un texte aussi exceptionnel dans les mains, on ne les voit pas, ou on les voit sans doute un peu, mais on ne les voit pas suffisamment, en tout cas, vivre de cet évangile, vivre de ces béatitudes. Donc, il y avait tout un enjeu qui était de faire connaître aux ouvriers le programme social de l'Église, donc les béatitudes et les œuvres de miséricorde. Et ensuite, il y avait aussi, du coup, petit à petit, et ça, c'est un peu une histoire dramatique, mais c'est pour vous dire aussi à quel point elle a accepté de se laisser bousculer par les événements. Donc, au début, dans ses journaux, voilà, elle disait, on a un programme, c'est le journal, les maisons d'hospitalité, la révolution verte, etc. Et puis, ils accueillaient un peu du monde dans leur maison. C'était un appart où il y avait Peter Morin qui s'était rajouté. Ils avaient loué une chambre en plus, etc. Tout ça est raconté dans ce livre, La longue solitude, si vous souhaitez le lire. Et un jour, donc un soir, il y a deux femmes qui sonnent et qui disent, on aimerait... On est à la rue, on a été expulsés, on n'a pas de maison. Et Dorothy dit, on est 40, on est désolé, on ne peut pas vous accueillir. Et le lendemain, à la soupe, il n'y a qu'une seule des femmes qui revient. Et donc, Dorothy Day la reconnaît et lui dit, mais où est ton amie? Comment se fait-il? Etc. Et elle lui dit, elle s'est jetée sous un train. Elle ne peut plus dormir dehors. Et là, Dorothy Day comprend, donc on est en 1933, comprend qu'il y a une urgence, en fait. On ne peut pas juste dire, dans 6 mois, quand les services sociaux m'auront donné mon allocation, peut-être que... Voilà, en fait, là, il y a une telle misère que la vie de ces gens est en péril. Et donc, elle écrit dans son journal, « Donnez-nous des maisons, il faut absolument qu'on mette en œuvre ces maisons d'hospitalité. » Et donc, ils vont recevoir à Mott Street la première maison, qui vont appeler la maison Saint-Joseph, au cœur de New York. Et petit à petit, ils vont ouvrir, il y aura environ 300 maisons d'hospitalité qui vont être ouvertes voilà, aux États-Unis de 33 à 60, environ les années 70-75. Alors, ces maisons d'hospitalité, c'est pas une mince affaire, hein, comme vous pouvez l'imaginer, parce que comme Dorothy est une anarchiste, il n'y a pas de règles. D'accord ? On est là pour vivre ensemble et accueillir tout le monde. Donc, on n'est pas là pour sélectionner les bons pauvres et les mauvais pauvres, on ne met pas dehors les alcooliques, etc., etc. Donc, vous imaginez bien que c'est compliqué. Ce qui est assez exceptionnel chez cette femme, c'est qu'elle ne prétend pas du tout que l'évangile, ça marche. Et même l'évangile, ça ne marche pas du tout, en fait. C'est ça qui est intéressant avec elle, c'est que elle n'est pas du tout en train de dire « il y a des problèmes sociaux et on a la solution, c'est l'évangile ». Elle dit plutôt « il y a des problèmes sociaux, notre vocation c'est l'amour, on doit apprendre à aimer, et l'amour, bah, entre guillemets, ça ne marche pas ». Et donc, elle va notamment beaucoup raconter dans son journal les expériences quotidiennes qu'elle vit. Et notamment, je vous ai mis un petit texte qu'on va lire, mais où elle raconte que, en fait, on peut donner généreusement à quelqu'un qui après va vous piquer toutes vos affaires. Et faut pas s'en étonner, parce que c'est pas parce que c'est pas parce que les gens sont bons qu'on leur donne. On leur donne parce que ce sont nos frères. Et donc même si cette personne est potentiellement un petit voyou de bas étage qui vole, ça reste mon frère. Donc elle est dans une forme de radicalité de l'amour. Et ça, je vous disais au début, avec Foster, elle a souhaité découvrir un peu l'amour naturel. Et elle parle beaucoup dans son livre du fait qu'elle découvre l'amour surnaturel, ce que peut être la charité chrétienne adressée à tous. Alors c'est le texte 4. J'ai entendu des gens dire, lorsqu'ils rencontraient des personnes dans le besoin, si je leur donne de la nourriture cette semaine, ils vont s'attendre à ce que je fasse de même la semaine d'après. Mais je ne pense pas que cela marche ainsi. Ce n'est pas le cas chez nous, ici, à la rédaction des Catholic Workers. En réalité, quand nous avons fait des dons, de nourriture, de vêtements, un peu d'argent, très rarement tout à la fois, ça s'est déroulé d'une manière inverse. Les bénéficiaires sont revenus pour demander ce qu'ils pouvaient faire pour nous aider. PS, aucun des 10 livres de prière que nous avons trouvés dans le bureau ne dressait la liste des œuvres de miséricorde. Pourtant, il dressait la liste des 7 péchés capitaux. On adore cette petite remarque. Et vous avez, c'est un petit condensé, mais vous voyez, ça dit beaucoup de la manière, en tout cas de la spiritualité et de l'espérance qu'avait Dorothy Day. C'est-à-dire... Ce passage, il me touche parce que j'ai l'impression, Dorothy, qu'on a aussi un peu cette expérience. On se dit toujours, tu mets le doigt dans l'engrenage, fioup, et t'as tout le bras qui passe avec. Je donne un peu à cette personne et elle va en profiter, elle va me dévaliser, en fait, je vais pas réussir à lui dire non, etc. Et souvent, on a peur de donner parce qu'on a l'impression qu'on va se faire déborder par toute la misère du monde. Et en fait, entre guillemets, penser comme ça, c'est croire que les gens qui sont dans le besoin, c'est des profiteurs, quoi. Ils en ont besoin, ils en profitent, ils voient des gens un peu simplistes et ils vont, entre guillemets, vouloir en abuser. Et ce que je trouve très beau, c'est que Dorothy Day, elle dit non, les gens ont besoin, ils ont une dignité. Ils n'aiment pas dépendre des autres. Eux aussi, ils aimeraient avoir un travail, une maison, une famille. Et ils ont de la joie, s'ils ont bénéficié de ton aide, ils ont de la joie à te rendre. Et à, après coup, revenir et dire, mais vous m'avez aidé telle et telle fois, est-ce que je peux vous rendre service ? Et c'est très beau parce que c'est toujours relever la personne. Il ne s'agit pas de voir la personne comme un potentiel ennemi ou une potentielle personne, mais plutôt, voilà, en fait, cette personne, comme moi, elle a envie de participer, elle a envie de participer à la communauté, elle a envie d'être respectée dans sa dignité. Et effectivement, Dorothy, cette dernière phrase sur les péchés capitaux est assez drôle, mais en fait, ça dit beaucoup de sa spiritualité, c'est-à-dire que quand on parle de l'amour, on parle de quoi ? Ou quand on parle de la foi chrétienne, on parle de quoi ? On peut avoir tendance à dire, allez, tous nos péchés, tout ce que... Ça peut être... On peut avoir une sorte d'introspection intérieure sur le fait que on est trop égoïste, on est trop autocentré, on est orgueilleux, etc. Pourquoi pas ? C'est important. Mais en fait, elle dit, mais l'œuvre du chrétien, c'est concret aussi. C'est concrètement aller visiter les malades, aller visiter les prisonniers, instruire les ignorants. C'est très concret. Et elle reproche un peu un christianisme, entre guillemets, trop spiritualisé. Ce qui est toujours une balance, sans doute. Il ne s'agit pas de dire que la vie spirituelle, bien sûr que c'est essentiel. Mais en fait, il faut retrouver les deux jambes, entre guillemets, de la vie chrétienne. Oui, il y a une jambe spirituelle qui est essentielle, et de prière, ça. Mais il y a aussi une jambe qui est vraiment l'amour concret. aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Est-ce qu'on prend très au sérieux cet appel à aimer nos frères comme le Seigneur nous a aimés? Elle va du coup beaucoup prôner la pauvreté volontaire. La pauvreté volontaire pour Dorothy, ce n'est pas la même chose que la pauvreté subie. Et c'est très important de faire la distinction. La pauvreté subie, c'est l'indignité. C'est quand vous n'avez pas de salaire, c'est quand vous n'avez pas de travail, c'est quand vous êtes maltraité, etc. C'est quand vous n'avez pas de logement, etc. La pauvreté volontaire, c'est le choix personnel de prendre moins pour que tout le monde ait suffisamment. Et je dis bien une distinction parce qu'elle n'est pas du tout dans une sorte de... parfois, on peut dire « Ah, les pauvres nous enseignent le visage de Dieu, là, là, là. » Non, non, mais pas du tout. C'est horrible de ne pas savoir ce qu'on va manger en fin de mois. Ce n'est pas du tout une situation souhaitable. Mais, donc, il ne faut pas du tout confondre pauvreté subie et pauvreté volontaire. Mais la pauvreté volontaire serait plutôt une sorte de mortification, en un sens, de faire le choix d'une vie sobre ou simple pour que tout le monde ait suffisamment. Elle en parle dans le texte 6. Et vous allez voir qu'elle a une vision que je trouve assez belle de la pauvreté volontaire. Le mois dernier, j'ai médité sur l'usage des armes spirituelles. L'amour pour l'humanité de notre Seigneur et l'amour de notre frère. La seule façon dont nous pouvons montrer notre amour pour Dieu est par amour que nous avons et par l'amour que nous avons pour notre frère. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Aimer son frère implique une pauvreté volontaire, de se déposséder, de se dévêtir du vieil homme, de s'oublier. Cela implique aussi de ne pas participer à ses efforts et à ses luxes qui ont été fabriqués via l'exploitation d'autres personnes. Tant que nos frères souffrent, nous devons avoir de la compassion pour eux, souffrir avec eux. Tant que nos frères souffrent du manque de produits de première nécessité, nous refuserons de profiter de ce confort. Les résolutions, quelle que soit la difficulté qu'on peut avoir à s'y tenir, quelle que soit la fréquence de nos échecs et de nos recommencements, font partie de la vision et de la vue à long terme que Peter Morin a essayé de nous transmettre ces 10 dernières années. La pauvreté résultera de notre examen de conscience en ce qui concerne les emplois. Si ces emplois ne contribuent pas au bien commun, nous prions Dieu pour la grâce de pouvoir les abandonner. Est-ce qu'ils ont quelque chose à voir avec le fait d'abriter, de nourrir, de vêtir? Est-ce qu'ils ont quelque chose à voir avec les œuvres de miséricorde? Frère Topkin dit que chacun devrait être capable de situer son emploi dans une catégorie des œuvres de miséricorde. Cela exclurait les emplois dans la publicité, qui ne fait qu'augmenter les désirs inutiles des gens, dans les assurances et la banque aussi, qui sont connues pour exploiter les pauvres du pays et des autres pays. Les banques et les compagnies d'assurance se sont emparées de la terre, ont construit des fermes, des ranchs, des plantations de 30 000, 100 000 hectares et ont dépossédé les pauvres. Les sociétés de prêts et de finances les ont encore plus escroquées. Les films, la radio les ont encore plus asservis. Si bien qu'ils n'ont pas de temps ni de réflexion sur leur vie, aussi bien spirituelle que corporelle. Tout ce qui a contribué à leur misère et à leur dégradation peut être considéré comme un mauvais emploi. Si nous examinons notre conscience de cette façon, nous serions bientôt attirés par le travail manuel, le travail humble, et nous deviendrons plus comme notre Seigneur et notre Sainte Mère. La pauvreté implique de ne pas participer. Elle implique aussi un mode de vie régional. Cela implique de renoncer au thé, au café, au cacao, au pamplemousse, à l'ananas, aux choses qui n'ont pas poussé dans la région où l'on vit. Un jour de l'hiver dernier, nous avons acheté des brocolis qui portaient l'étiquette d'une entreprise agricole en Arizona ou au Texas, où nous avions vu des hommes et des femmes et des enfants travailler à 2h du matin avec des lampes de minière sur le front, afin d'éviter la chaleur torride du jour qui atteignait parfois plus de 50 degrés. C'était des migrants sans abri. Ils sont environ 1 million aux États-Unis. Et pour eux, il n'y a pas de place dans l'auberge. Référence à la Sainte Famille. Nous ne devrions pas manger de nourriture produite dans de telles conditions. Nous ne devrions pas fumer, non seulement parce que c'est une habitude inutile, mais aussi parce que le tabac appauvrit l'âme et paupérise les fermiers, et implique que des femmes et des enfants travaillent dans leurs champs. La pauvreté implique d'avoir un strict minimum en ce qui concerne les vêtements et de vérifier qu'ils sont faits dans des conditions de travail décentes, avec les salaires et des horaires corrects. L'étiquette syndicale essaye de le garantir. Vu les conditions dans les ateliers de lainage, ce serait mieux d'élever soi-même moutons, chèvres et lapins angora, ça fait du travail quand même, et de filer, tisser et faire ses propres couvertures. Beaucoup de groupes dans le pays essayent de faire cela à la fois comme remède au chômage et pour avoir un mode de vie plus agréable. La pauvreté implique de ne pas rouler sur du caoutchouc tant que des conditions de travail horribles sont la norme dans l'industrie du caoutchouc. La pauvreté implique de ne pas utiliser le chemin de fer tant que de mauvaises conditions de travail existent dans les mines de charbon et les usines d'acier. Donc, en fait, c'est très concret pour Dorothy Day. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que c'est par amour, c'est la question de la charité, finalement. Souvent, on envisage la charité, on se dit, ben voilà, on est appelé à aimer. Donc, on pense à la petite Thérèse de Lisieux, femme extraordinaire, et on se dit, il faut ramasser une épingle avec amour, il faut supporter ma sœur qui me saoule avec amour, et lui, voilà, être généreuse avec elle, etc. Et c'est essentiel, c'est le cœur. Mais en fait, on ne peut pas méconnaître les gens qu'on ne voit pas, mais vis-à-vis desquels on est lié, à cause de nos conditions de vie quotidiennes. On ne peut pas, entre guillemets, notre prochain... Alors oui, notre prochain, c'est ceux qui sont proches, mais on est dans une société où aujourd'hui, notre prochain, c'est tous les gens qui travaillent, entre guillemets, ou dont nous pouvons... Je vais me reformuler. C'est tous ceux qui travaillent et qui travaillent pour produire des objets dont nous bénéficions. Et vous voyez, c'est... Alors on pourrait se dire, mais on ne mange plus rien... On est dans une forme de pauvreté extrême. Mais finalement, il faut toujours compenser ça par, justement, cette vie communautaire, cette vie de charité concrète en acte. C'est-à-dire que, sans doute que l'assiette de consommation répond à une solitude profonde de notre époque. Dorothy, elle voit les deux pans. Elle dit à la fois, il faut faire un acte de pauvreté pour refuser de participer à l'exploitation de nos frères, et à la fois, il ne s'agit pas de vivre tout seul dans une grotte sans rien manger. Il s'agit de vivre concrètement ensemble la joie d'être entre frères et sœurs. Ça peut être au sein d'une paroisse, ou de sa famille, d'une association. Mais voilà, cette vie concrète du quotidien est belle. Et si vous avez cette vie concrète du quotidien, on a beaucoup moins besoin d'un luxe qui, en fait, repose, sans qu'on s'y intéresse vraiment ou sans qu'on veuille vraiment le voir, sur l'exploitation d'un certain nombre de personnes. Et ce texte me paraît très actuel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun doute... Cette situation est on ne peut plus actuelle. Notamment parce que la majorité de ce qu'on achète vient de pays qui sont de Chine ou de pays qui sont bien moins développés que nous, etc. Dans lesquels il n'y a pas de temps du travail, ou très peu, etc. J'ai plus beaucoup de temps, mais je voulais vous parler peut-être d'un dernier sujet, qui est le sujet du pacifisme. Alors, Dorothy Day s'est engagée sur tous les grands thèmes, tous les grands... combat politique de son époque. Donc, vous voyez, elle est née en 1897, elle est morte en 1980. Vous voyez, elle a vraiment une vie très longue. Donc elle s'est engagée, elle était pacifiste. Lors de la Première Guerre mondiale, elle a choisi d'être infirmière, parce qu'elle refusait elle s'est battue contre le service militaire, contre l'engagement des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Elle s'est engagée comme infirmière, du coup. Justement pour vivre un peu les œuvres de miséricorde, mais à l'époque, elle ne le savait pas, elle n'était pas encore chrétienne. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, elle s'est de même engagée dans le pacifisme. Lors de toute la guerre froide, elle s'est engagée contre la guerre en Vietnam, contre la course à l'armement entre les États-Unis et la Russie, l'URSS à l'époque, contre aussi toutes il y avait à cette époque, elle parle notamment des exercices qui étaient faits, qu'on imposait à la population, pour les préparer à une potentielle attaque nucléaire. Elle parlait en fait de l'esprit de guerre que l'État cherchait à faire sentir à sa population pour acquérir un peu l'approbation de la population quant aux investissements dans l'industrie de l'armement, etc. Elle s'est engagée donc pour les droits civiques. Elle s'est engagée notamment avec Chavez, qui était un syndicaliste catholique en Californie, pour des salaires dignes pour les ouvriers agricoles, le droit à la propriété, la régularisation de tous les ouvriers migrants qui travaillaient dans les grandes exploitations agricoles de la Californie sans aucun droit du travail, aucune condition de travail digne. Elle s'est engagée, donc elle a notamment en 1963, elle est allée au Concile Vatican II faire une grève de la faim avec plusieurs femmes pour demander à ce que le pape reconnaisse que de nos jours, il n'y a plus de guerre juste. Donc, j'essaie de développer un peu ça pour que vous compreniez ce dernier point. Que le pape, que l'Église, voilà, prenne une position radicale contre la montée de la violence et la montée de la situation de guerre que traversait l'Europe. Alors, aujourd'hui, ça me paraît très important comme sujet parce que on ne vit plus dans le monde que peut-être vous avez connu, je ne sais pas, en fonction de vos âges, où on se disait que la guerre était derrière nous. Moi, personnellement, ou ma génération, on peut avoir peur que la guerre soit devant nous. La guerre s'est rapprochée à une vitesse très rapidement de l'Europe, que ce soit ce qui est en train de se passer à Gaza, au Liban, en Ukraine. Et on sent qu'on est dans une société où les tensions sociales sont importantes et où la difficulté à faire cohésion, à faire unité, etc. sont extrêmement importantes. Et donc, se pose la question de qu'est-ce que c'est que le pacifisme dans ce contexte-là. Est-ce que ça a du sens d'être pacifiste et qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'être pacifiste? Dorothy Day, elle a perdu presque tous ses lecteurs lors de la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'elle a affirmé son pacifisme. C'était vraiment unanime aux États-Unis que les États-Unis devaient rentrer en guerre pour soutenir l'Europe contre le nazisme. Et elle a tenu ferme en disant « ce n'est pas une guerre juste ». Alors, il y a plusieurs arguments. Après, on va lire un texte, mais il y a plusieurs arguments qu'on pourrait garder en tête. Pour Dorothy Day, les chrétiens sont bien sûr enracinés. D'accord, on appartient à un peuple, on est français pour la plupart d'entre nous sans doute, etc. Et à la fois, sont les témoins d'une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que l'homme est fait pour aimer et que, par la grâce de Dieu, on peut vivre en frère. Et donc, c'est toujours cet argument qui est de dire on ne peut pas résoudre le mal par un mal plus grand. La vocation du chrétien, c'est de témoigner jusqu'au martyr que le Christ est vainqueur. Donc, c'est une vision qui est presque une vision, on pourrait dire, monastique, mais qu'elle propose à tous les chrétiens comme étant un témoignage de l'amour, l'amour plus fort que la mort. Et donc, en tant que chrétien, on ne peut pas utiliser les armes de la destruction pour prétendre apporter la civilisation de l'amour. Donc, elle a des mots très forts contre tous ceux qui voudraient... Elle dénonce beaucoup le fait que les États-Unis prétendent être du côté du bien, prétendent apporter la civilisation, l'amour, le développement, etc., alors même qu'ils utilisent des armes de destruction massive. Et Dorothy Day va passer sa vie à faire pénitence pour Hiroshima. Elle parle constamment du scandale, du scandale américain, en fait du scandale de l'hypocrisie américaine qui prétend apporter le bien en étant le seul pays qui a utilisé la bombe atomique. Alors même qu'il est le seul pays qui a utilisé la bombe atomique. On peut lire le texte 5. Pourquoi les membres du corps du Christ se déchirent-ils ? Donc, vous voyez, elle écrit ça en 42, donc c'est en plein dans la Deuxième Guerre mondiale. Elle dit « Mais nous sommes en guerre, disent les gens. Ce n'est pas le moment de parler de paix. C'est démoralisant pour les forces armées de protester, de ne pas les soutenir dans leur combat pour le christianisme, la démocratie et la civilisation. » Donc, l'idée qu'il faut faire la guerre pour des valeurs. Il faut faire la guerre pour l'amour, pour la civilisation, pour la chrétienté, etc. Maintenant que c'est commencé, on ne peut plus rien y faire. Un lecteur nous a écrit pour protester contre nos voix frêles, s'insurgeant contre la guerre et notre sentimentalisme. D'accord ? En fait, on serait un peu des naïfs, des bisounours, en fait, peut-être même des gens un peu lâches à ne pas vouloir faire la guerre. C'est l'accusation portée contre les pacifistes. Nous sommes supposés craindre la souffrance et les épreuves de la guerre. Mais que ceux qui parlent de délicatesse et de sentimentalité viennent vivre avec nous dans les maisons froides et non chauffées des quartiers pauvres. Qu'ils viennent vivre avec le criminel, avec le déséquilibré, l'alcoolique, le déclassé, le pervers. Car ce ne sont pas les pauvres convenables, ni même les pécheurs convenables qui furent les bénéficiaires de l'amour du Christ. Qu'ils viennent vivre avec les rats, avec la vermine, les punaises de lit, les cafards et les poux. Que leur chair soit mortifiée par le froid, la saleté, la vermine. Que leurs yeux soient mortifiés par la vision des excrétions du corps, par les maladies des membres, celles des yeux, du nez, de la bouche. Que leur nez soit mortifié par les odeurs des eaux usées, par la chair putride et en décomposition. Que leur goût soit mortifié par l'habitude des repas où la nourriture vient à manquer, des repas cuisinés pour des centaines de personnes. Ainsi, quand ils auront vécu avec ses camarades, avec ses visions et ses bruits, nous les laisserons parler de sentimentalité. Nos groupes des Catholic Workers sont peut-être trop endurcis par les souffrances de la guerre des classes, car ils vivent dans des camps de réfugiés. Les réfugiés étant les victimes de cette guerre des classes. Nous vivons au cœur de cette guerre depuis des années. Ce n'est pas une guerre reconnue par la majorité de nos compatriotes installés. Ces gens-là sont pacifistes même lorsqu'il s'agit de la guerre des classes. Ils prétendent même qu'elle n'a pas lieu. Beaucoup d'amis nous ont recommandé de traiter cette guerre mondiale de la même manière. « Gardez le silence avec le cœur saignant », nous a écrit un lecteur. Un homme pro-guerre, pas un sentimentaliste. Mais nous ne pouvons pas rester silencieux. Nous n'avons pas gardé le silence face à l'injustice monstrueuse de la guerre des classes. Nous n'avons pas à garder le silence face à la guerre des races qui s'avance à côté de cette guerre mondiale et que les communistes appellent la guerre impérialiste. Lisez les extraits de la lettre du missionnaire en Chine. Souvenez-vous des grévistes de l'acier qui n'ont pas d'armes, des mineurs de charbon abattus en faisant le piquet de grève. Ces ouvriers doivent-ils se révolter? Doivent-ils prendre les armes dans ce conflit de classe pour défendre leur vie, leur maison, leurs femmes et leurs enfants? Le mois dernier, un noir dans le Missouri s'est fait tirer dessus, puis il a été traîné derrière une voiture par la foule à travers les rues. Et quand la pauvre victime agonisante est morte, le corps a été laissé dans la rue, jusqu'à ce qu'un camion d'ordures ne l'emporte. Les Noirs ne doivent-ils prendre les armes pour venger cette injustice cruelle? Non. On attend des Noirs et des ouvriers en général qu'ils soient pacifistes face à ces agressions. Peut-être qu'on dit que nous sommes sentimentaux parce que nous parlons de l'amour. Nous disons que nous aimons notre président, notre pays et nos ennemis aussi. Lisez le dernier sermon de Jésus à ses disciples. Comment pouvons-nous exprimer cet amour? Par les bombes, par les blocus. L'amour ne signifie pas la tuerie, mais l'amour signifie donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc ici, vous avez un texte qui est assez cinglant, qui dit assez bien que la pensée de Dorothy Day est une pensée complètement cohérente. En fait, elle cherche à vivre les béatitudes dans tous les aspects de la vie chrétienne. C'est-à-dire qu'elle ne va pas dire, là, il y a l'amour évangélique, et puis là, il y a la raison d'État. Ou là, il y a l'amour évangélique, et là, il faut être pragmatique. Donc, désolée. Elle dit, en fait, il y a une hypocrisie des gens qui nous prétendent qu'on est sentimentaux, parce que quand il y a des conflits sociaux, on nous dit « Ouh là 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 là, vous êtes un peu violents, vous, les grévistes. Vous ne devriez pas être violents, nous devrions dialoguer, nous devrions négocier ensemble des conditions de travail dignes, etc. » Donc, elle reproche en fait à une partie de la population de refuser le conflit lors d'une lutte plutôt sur une question sociale, mais d'être va-t-en-guerre quand il s'agit d'une guerre, là en l'occurrence d'une guerre mondiale, d'une guerre nationaliste. Et elle dit, voilà, Dorothy prône la non-violence dans les luttes sociales, et elle va avoir un rôle très important pour justement refuser l'action directe, refuser la violence, toute forme de guérilla communiste, etc., est complètement bannie chez les Catholic Workers, toujours prôner la non-violence, mais surtout que c'est en étant paciste, ou plus bien, c'est parce qu'elle est pacifiste dans le quotidien, c'est parce qu'elle, dans le quotidien, essaye de vivre cet amour évangélique, qu'elle ne peut pas soutenir une guerre. Et quand on essaye toute la journée, entre guillemets, de vivre avec des gens qui sont des exclus de la société, on ne peut pas, entre guillemets, soutenir une guerre face à des gens qu'on ne connaît pas, qui sont des ennemis de notre pays, selon les intérêts du moment, selon la guerre du moment. Ce que je trouve intéressant dans ce texte, c'est qu'elle montre qu'en fait, il n'y a pas la paix sur les questions géopolitiques ou la paix sur les questions sociales. En fait, il y a un habitus, il y a une forme de paix, il y a des artisans de paix, quels que soient les secteurs dont on parle. Un artisan de paix dans le quotidien, un artisan de paix dans son travail, un artisan de paix au niveau international. On ne peut pas choisir les domaines dans lesquels on est pacifiste. Mais surtout, elle montre que le pacifisme, ce n'est pas du tout de la lâcheté. Ce n'est pas du tout quelqu'un qui aurait peur de se battre. Et ce qui est beau dans ce texte, c'est qu'elle montre que l'amour évangélique est extrêmement exigeant. Et en fait, il faut un courage, il faut une vertu certaine pour pouvoir vivre de cette vie évangélique. Alors, le mot de la fin, qui est intéressant avec Dorothy Day, c'est qu'elle passe constamment de la vie spirituelle à la vie profane. Elle ne fait pas de distinction. Il n'y a pas la vie spirituelle d'un côté et la vie économique de l'autre, ou la vie spirituelle d'un côté et la vie politique. Pour elle, tout est sacrement. Tout est sacramentel. Dieu est dans notre quotidien, quels que soient les domaines de notre vie. Et donc, toute cette exigence évangélique que l'on vit dans notre vie, on pourrait dire personnelle, intime, on doit la vivre aussi, ou on est appelé à la vivre aussi, dans les lieux collectifs qu'on fréquente, je sais pas, le lieu où on travaille, les enjeux politiques de notre localité, etc. Elle va être très marquée, et ça fera le lien avec la conférence de demain matin, mais notamment par le choix préférentiel pour les pauvres. Et on peut dire que pour Dorothy Day, cet amour évangélique doit se voir, entre guillemets, se constate à l'amour que nous aurons pour les plus petits. Et donc c'est vraiment ce qu'elle a essayé de vivre toute sa vie. Et peut-être le dernier mot de la fin, c'est que ça ne marche pas. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas du tout une solution. Elle est pas du tout dans une. Elle cherche pas à solutionner quelque chose. Elle est pas en train de nous dire que on va aider des gens en galère et que ces personnes vont changer de vie, arrêter de boire, sortir de leurs difficultés sociales, retrouver du travail. Non. Elle dit on est appelé à les aimer. Il y a des personnes qui, à cause de leur parcours de vie, sans doute auront des difficultés à rebondir, même si c'est tout à fait possible. Dieu fait des miracles. Mais je veux dire, elle propose pas une solution sociale. Elle propose une exigence dans le rapport, à la fois dans la vie personnelle et dans la fraternité humaine. Voilà, merci beaucoup. Merci.
Dorothy Day, Révolution sociale et révolution du cœur, une militante chrétienne au XXe siècle. Vous venez de suivre une conférence de Thérèse Dussartel, enregistrée à la Maison diocésaine de Bayonne, le 27 septembre 2024 à l'occasion de la rentrée de l'antenne de théologie des Pays de l'Adour, l'ATPA. Thérèse Dussartel enseigne la philosophie et publie tous les 15 jours une chronique dans l'hebdomadaire La Vie. En 2017, elle a cofondé le Dorothy, un café-atelier associatif animé par des chrétiens et ouvert à tous dans un esprit de fraternité. Le Dorothy est situé à Paris, rue de Ménilmontant. Il est le cadre de nombreuses activités intellectuelles, artistiques, manuelles et sociales.